Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou.
Allez, Vladimir Ilitch, tu sors.
Monsieur Sardou est pris la grosse tête.
Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public ?
Je crois, oui.
Pour vous dire quoi ? Pour vous signer une photo ? Je voulais signer votre photo en 76.
J'ai le cerveau qui ne comprend plus rien avec ces deux génériques mélangés. Bonjour et bienvenue dans...
Les rois du monde et Stockholm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit à la Saint-Symphonie au Requiem. J'avoue, je me dis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé.
Et en plus, ça se fait en une fois. Bravo,
incroyable.
Virginie. Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes autour de cette table virtuelle. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu plus court, un petit peu plus ramassé, puisque nous n'allons pas parler d'un spectacle qui s'est déjà produit, mais d'un spectacle qui ne s'est pas encore produit, dont on vient de découvrir des petites choses. Et vous l'avez certainement compris, il va être question de Michel Sardou. Puisque nous allons parler de Je vais t'aimer, le spectacle basé sur les chansons de Michel Sardou, qui commencera au mois d'octobre prochain et dont le tout premier extrait, le premier single, La rivière de notre enfance, vient de sortir. Là, à l'heure où nous enregistrons, il est sorti depuis quelques heures, on est vendredi, jour de sortie de la musique. On a décidé de se pencher sur ce tout premier extrait. Avec nous, autour de cette table virtuelle, il y a donc Virginie, vous avez entendu tout à l'heure. Hello, re.
Hello, re.
Il y a Mélanie avec nous également, salut.
Salut.
Il y a Amélie qui sera avec nous dans quelques instants. On fait un coucou à Ambre qui est retenue pour des raisons professionnelles. Et puis, il y a un invité, il y a Martin qui est avec nous. Bonjour Martin.
Oui. Bonjour, comment allez-vous ?
Mais ça va très bien, Martin, qui est dont je suis le fidèle compagnon dans le podcast Stockholm Sardou, que vous êtes... peut-être en train d'écouter en ce moment, puisque c'est un crossover de deux podcasts.
Ouais. Non, on est un peu chacun le fidèle compagnon de l'autre, on peut le dire.
C'est exactement oui. Ça, ouais. Et donc, on a effectivement décidé d'unir nos forces, d'unir nos deux podcasts pour parler de ce tout nouveau spectacle. Et pour en savoir un petit peu plus sur Je vais t'aimer, nous avons également un invité qui est infiltré dans les coulisses, puisqu'il est lui-même le producteur de ce spectacle. Bonjour Roberto Surléo.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Et merci d'avoir répondu à cette invitation croisée de nos deux podcasts, donc l'un sur les comédies musicales, l'autre sur Michel Sardou, pour lever un peu le voile sur Je vais t'aimer, qui est donc la comédie musicale sur les chansons de Michel Sardou. Vous êtes le producteur de ce spectacle après avoir produit entre autres Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Bernadette de Lourdes. Et la raison pour laquelle on sort cet épisode maintenant, c'est que le tout premier extrait de ce spectacle qui s'appelle La rivière de notre enfance vient de sortir. On avait envie d'en parler un petit peu avec vous et c'est Mélanie qui va se lancer dans les premières questions.
Bah, du coup, j'enchaîne avec la première question la plus logique qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce premier single ? Pourquoi vous avez choisi ce titre-là parmi toutes les chansons de Michel Sardou et toutes les chansons que vous avez retenues pour le spectacle ?
En fait, écoutez, ce single et ce titre-là a une histoire particulière dans le spectacle et dans ma vie tout court. C'est assez étrange. J'ai une couche supplémentaire depuis la semaine dernière parce que j'ai passé un long moment avec Didier Barbelivien qui m'a raconté l'histoire de la naissance de ce single. Donc, d'un seul coup, c'est... ce titre-là, c'est pas qu'un premier single, c'est une part d'histoire pour beaucoup de personnes, dont moi. En fait, à l'origine, ce titre n'était pas prévu dans le spectacle. Et lorsque le premier confinement s'est terminé, j'ai effectué un premier déplacement en avion. Et là, je me suis dit, OK, j'ai le livret et tout, je vais réécouter quelques titres de Michel Sardou. Donc, il y a un top 100 qui est disponible sur les plateformes. Et donc, je voulais m'assurer de ne pas avoir oublié de titre. La problématique, quand on fait on raconte une histoire pour une comédie musicale avec des titres de Sardou, il y en a tellement qu'il faut bien faire une sélection. Et là, je prends l'avion. Alors, c'est très bizarre parce qu'il n'y avait personne dans cet avion, très, très peu de monde. Donc, ça m'a rendu très visible quand j'étais assis. Vous allez comprendre pourquoi. J'écoute l'album. Alors déjà, il y a tous ces titres que j'aime beaucoup. Et d'un seul coup, arrive un titre qui est La rivière de notre enfance. Et là, je me mets à pleurer. Alors, je pense que plein de choses devaient sortir à ce moment-là. Mais en fait, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Ça m'a rappelé… je dirigeais Énergie à l'époque et j'étais à deux doigts de jouer le titre. Je ne l'avais pas fait parce que je crois qu'il y avait déjà un autre titre. Je crois que c'était Marie de Johnny Hallyday ou un truc comme ça. Et j'avais longtemps regretté de ne pas avoir joué ce titre-là qui avait été un tube énorme. À l'époque, c'est quasiment 900 000 exemplaires de vendus. Je crois que c'est le dernier succès pour un support physique, pour un 45 tours, c'était vraiment… Et là, je me mets à pleurer. J'arrivais pas. Alors moi qui essaie de contrôler un peu tout ça, impossible de m'arrêter. Là, l'hôtesse vient me voir. Elle me dit, monsieur, est-ce que vous avez un problème? Je dis non. J'écoutais les titres de Michel Sardou. Je suis tombé sur La rivière de notre enfance et ça m'a tellement touché. Et cette hôtesse, j'aurais dû inviter à l'époque, devait avoir 35 ans, 35 ans, me dit, mais j'adore cette chanson. Et elle me dit, il y a tellement de personnes et tellement de pères, d'oncles, de frères qui sont partis pendant ce premier confinement que… Et donc ça, alors là, j'ai continué à pleurer. Et en atterrissant, j'ai envoyé un email au metteur en scène qui était à Montréal. Je lui ai dit, écoute, il faut ce titre dans le spectacle. En plus, il peut arriver à un moment bien précis. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais ça va parler à plusieurs personnages, puisqu'on les suit sur 40 ans, ces personnages. Et en fait, le single a pris toute la place qu'il devait avoir dans le spectacle. Et si j'ai encore un peu de temps, j'ai même une suite à cette histoire-là.
Bien sûr.
On a commencé à travailler sur l'album et très rapidement, et vous le savez puisque dans ce podcast dédié à Michel Sardou, les titres de Michel Sardou, on les connaît tellement qu'à un moment donné, on a l'impression que tout est facile. Ce sont des tubes qu'on a dans la tête. Et en fait, quand on se pose, quand on décortique un peu les textes et quand on regarde les compositions elles-mêmes, tout est très compliqué. Ce sont des œuvres extrêmement complexes et complètes. Et quand il s'agissait de réaliser l'album, on s'est dit, OK, en regardant les partitions, à l'époque, ils ont enregistré tous les instruments en même temps, guitare, voix, batterie, piano. Et donc, on s'est dit, il nous faut quelqu'un qui a ce savoir-là, qui a l'habitude d'enregistrer plein d'instruments en même temps, alors qu'aujourd'hui, on enregistre quasiment tout indépendamment dans la pop. On passe un temps fou à faire des singles, à découper les voix. Et là, on a pensé tout de suite à deux personnes. C'est Quentin Bachelet et Philippe Humensky. Et précisément, Philippe Humensky a fait tous les derniers albums de Calogero. Et d'ailleurs, j'ai croisé Calo il y a quelques temps. Là, il m'a dit que tu as pris le meilleur d'entre nous. Et il a fait également il a travaillé sur les derniers albums de Johnny Hallyday. Et donc quand j'aurais parlé de La rivière de notre enfance, ils m'ont dit, mais toi, quels sont les titres que tu aimes bien en ce moment? Je dis, ben moi j'adore Jérémy Frérot, Un homme, j'adore cette intro un peu dépouillée. Et puis j'aime aussi les titres quand dans le refrain on a de vrais instruments. Ok, c'est la direction qu'on va prendre pour La rivière de notre enfance. Donc, ils ont commencé à travailler sur l'instrumental. Quand j'ai reçu l'instrumental sans la voix, je me suis dit, on a quelque chose de fort qui ne copie pas l'orchestration du premier, mais qui conserve toute l'âme de cette chanson. Parce que l'idée, c'est que les gens retrouvent toutes les chansons qu'ils aiment et pas commencer à faire des remixes improbables. une fois qu'on s'est dit, OK, quel chanteur de la troupe, ça raconte quoi dans l'histoire? Tout de suite, pour moi, il était évident que Tony, Jacob et Boris, ils ont tous les trois des prénoms un peu bizarres, mais ce sont leurs vrais prénoms, hein, étaient faits pour ce single. Et en fait, alors là, j'ai eu ma deuxième couche de pleurs, puisqu'on est allé en studio. Et là, Tony commence à chanter avec une émotion qui était vraiment palpable. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Alors, quand vous sortez d'un casting, tout va très vite. Donc, vous ne connaissez pas encore vraiment l'histoire de chacun d'entre eux. Il faut passer du temps. Et là, tout va très vite. Et là, je sais qu'il me laissera en parler librement. Lui a été abandonné par son père. Donc, il est orphelin. Et donc, ça lui, ce texte-là, vous imaginez un peu la consonance.
Forcément.
Après, Jacob, c'est sa maman qui vient me parler. Jacob a 17 ans, elle me dit, vous savez, ça a été très, très compliqué pour lui. Il a perdu son papa, il avait 4 ans, il a du mal à en parler. Donc, d'un seul coup, il y a cette chanson qui met des mots. Et puis, Boris a une toute autre histoire que je ne peux pas vous raconter. Donc, d'un seul coup, ces trois interprètes allaient porter des paroles qui avaient un sens profond pour eux. Et donc, ça donne ce que vous venez de découvrir, un titre qui, à la première écoute, plaît aux gens. Il se passe vraiment quelque chose de surprenant avec la vie de notre enfant. Vous avez vu une question, 10 minutes de réponse.
Ouais. Non, mais du coup, vous êtes bien c'est dans la vie matérielle de notre podcast, je
c'est
pense.
Ça.
Et, c'est très beau parce que, du coup, la chanson parle autant aux personnages qu'aux chanteurs, enfin aux interprètes. Donc, c'est vraiment très fort sur ce niveau-là.
Mais alors, en fait, c'est la grande magie de ce livret. Si vous avez vu Mamma Mia avec les titres d'Abba, ça fonctionne exactement de la même façon. Mais il y a un truc supplémentaire, c'est que le répertoire de Michel Sardou, quand on se pose et qu'on l'écoute, mais c'est que des morceaux de notre vie, de nos vies directement, de nos vies, de ceux qui nous entourent, de gens qu'on a aimés, d'une fête étudiante, d'un mariage, d'une rupture, d'un fait divers, d'un fait de société, un truc qui est... Tous ces titres font résonance. Moi, je suis... Mais j'aimais Sardou, puisque on en écoutait à la maison tout ça, mais là, je suis... ultra fan. D'ailleurs, en ce moment, il faut peut-être que j'arrête, sinon je ne vais plus pouvoir regarder le spectacle. Mais tout particulièrement, j'ai découvert plein de titres que je ne connaissais pas. Et tous ces titres qui étaient des phases B ou des titres qui étaient sur des albums que je connaissais vraiment pas. Aujourd'hui, c'est une chanson que j'adore. C'est un patrimoine colossal. Et je pense que tout le monde se retrouvera dans ce spectacle.
Oui, et puis... Ouais, non, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est marrant que vous évoquiez ça spécifiquement sur la rivière de votre enfance, parce que c'est vrai que moi, quand je l'avais écouté, quand c'était sorti, je l'avais trouvé sympa, mais sans plus, et je l'ai réécouté là, et bon, c'est vrai que moi, j'ai perdu mon père l'année dernière, et ça a une résonance particulière, et ça fait quelque chose. Et justement, je me demandais aussi, enfin, on se le demandait, on dit souvent, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, que chaque chanson de Sardou, en fait, raconte une histoire, vraiment fait vivre un moment de vie, une histoire à part entière. Et donc, en fait, on se demandait, est-ce que ça rend la chose évidente ou est-ce que c'est pas un peu difficile, finalement, de raconter une histoire autonome avec ces chansons-là qui sont déjà plein de morceaux d'histoire?
Alors, Virginie, là, c'est effectivement tout le cœur, c'était tout le cœur de la problématique. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un exercice très difficile de partir de chansons existantes et d'écrire un livret autour. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Et en même temps... Il faut que quand vous écoutez une chanson, c'est une œuvre de 3 minutes. Chez Sardou, ça peut aller jusqu'à 7 minutes, comme avec les Pink Floyd. Donc ça raconte déjà une histoire. Là, c'est plein de petits morceaux d'histoire qui. Et là, c'est le grand talent de Serge Denoncourt, qui est le metteur en scène, un Québécois de vraiment de renom en Amérique du Nord. J'en parlerai peut-être tout à l'heure si vous me posez des questions sur lui, mais c'est vraiment le metteur en scène nord-américain et québécois depuis 5 ans, numéro 1, qui est incroyable, qui fait de l'opéra, du théâtre, de la comédie musicale, des cirques, du spectacle pour le Cirque du Soleil. Et là, en fait, il a travaillé quasiment 8 mois sur le livret, parce qu'il y avait cette difficulté-là. Il voulait que ce soit mettre les lacs du Connemara, trouver une justification à cette chanson-là. Non, on ne voulait pas que ce soit... Moi, j'ai produit pas mal de comédies musicales la française où ce sont des tableaux pop avec de grosses images. On passe d'une chanson à une autre. L'histoire importante, mais bon, voilà, je sais ce que j'ai déjà produit et que j'adore d'ailleurs. Là, on est vraiment dans un format Broadway West End. Ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, il y a beaucoup de textes. Il y a un peu plus d'un quart de textes, donc de jouer avec des dialogues très forts. Et c'est ces chansons qui ont alimenté tout ça. Et donc, on a 7 personnages principaux totalement différents des uns des autres qui se révèlent à travers ces chansons. D'ailleurs, on sort de notre premier atelier de théâtre. C'est un metteur en scène qui commence d'abord par le jeu. Pendant une semaine, chacun faisait la rencontre de son rôle. Et même les chansons n'étaient pas chantées, mais étaient parlées et lues. Et d'ailleurs, ça a été un choc pour les artistes. C'est de dire, ah mais ça, il veut dire ça dans J'accuse. Ah mais il veut dire ça dans telle chanson. Ah mais, en fait, les chansons, les textes sont incroyables. Donc, bref. Tout est très compliqué sur ce livret-là parce que il y a des chansons que l'on connaît. Les gens vont arriver dans la salle en ayant la voix de Michel Sardou dans la tête, les arrangements de l'époque. Et en fait, à la lecture du livret où tout est fragile, les acteurs découvrent tout ça. Au bout de 5 minutes, moi j'assiste à ces ateliers silencieux. Au bout de 5 minutes, je basculais dans l'histoire.
Est-ce que, du coup, on va avoir des surprises dans le choix des chansons? Parce que sur le site web du spectacle, il y a déjà une liste, une sélection de chansons. Il y a des standards, mais il y a aussi des titres, alors que les auditeurs et les auditrices de Stockholm Sardou connaissent forcément, qui s'appellent Le Prix d'un homme, qui s'appellent Parlons de toi, de moi, qui s'appellent S'enfuir et après. Est-ce que ça, c'est des chansons qui vont être dans le spectacle, des choses un petit peu différentes?
Alors ça, ouais. Julien, c'est typiquement des titres que moi, je ne connaissais pas, et qu'à part les fans, les gens ne les connaissent pas comme à l'époque avec Je vole pour la famille Bélier. Ces titres-là sont nécessaires au spectacle parce que c'est pas non plus qu'une compilation de tubes où c'est pas un spectacle karaoké, même si j'aime beaucoup ça. Et en fait, je pense que ces titres-là permettent non seulement de valoriser tous les tubes, mais surtout pour les gens. Ce seront de vraies découvertes. Je pense que ceux qui n'ont pas entendu Le Prix d'un homme, justement, où J'accuse, il y a plein de gens qui connaissent pas J'accuse, tout ça, ils vont... J'accuse, regardez le texte, je sais pas, J'accuse, c'est fin des années 70,
c'est 76, je crois. Voilà. 76, il me semble.
On évoque tout, c'est la société d'aujourd'hui, il y a l'écologie, il y a le... C'est un titre dingue, c'est un titre fou. Et donc, moi, aujourd'hui, J'accuse, c'est une de mes chansons favorites. Donc, mais je ne la connaissais pas. Avant le premier casting, où le metteur en scène voulait que le titre soit dans la liste des chansons disponibles pour les artistes, il pouvait la choisir. En fait, je l'avais écouté vaguement un peu avant le casting. Et quand j'ai vu un des artistes, Vinicius, que l'on a casté et qui est dans la troupe, l'interpréter, je me suis dit, mais c'est quoi ce chef-d'œuvre? Et donc... Parlons de nous, c'est pareil. Tous ces titres-là sont extrêmement magnifiques. Et dans le spectacle, c'est des bouts d'histoire incontournables.
Donc, du coup, ces bouts d'histoire, ça va raconter quoi au final? Alors, ça raconte...
6 personnages principaux, dont un qui est un peu le narrateur. Le narrateur, c'est le plus jeune. C'est Jacob que vous avez dans La rivière de notre enfance. En 2004, puisque l'histoire se termine en 2004, il décide d'accompagner sa mère. Je veux pas vous spoiler le truc. On se fera un autre podcast après la première.
Avec plaisir. Ouais.
Il décide de faire ce voyage qui était tellement important pour sa maman. Sa maman lui avait raconté une histoire d'un voyage sur le France au moment de son inauguration entre le Havre et New York, destination Broadway. Sa mère était partie avec 5 autres personnages, ce sont les 6 personnages principaux, en 1962, sur le France. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir l'histoire, des histoires croisées de ses 6 amis. Donc, Thomas, Mike, faut que je switch de leur prénom, leur vrai prénom. Ils ont des prénoms de déjà de personnages. Louise, Léo, Nicole, ouais. Léo. Et là, on va suivre pendant 40 ans ces six protagonistes. Et ça marche un peu comme la série This Is Us, que vous connaissez peut-être, qui est un pur chef-d'œuvre, qui est moi ma série favorite. En fait, un jour, je dis au metteur en scène, je lui dis, mais tu sais, si tu veux raconter ton histoire, est-ce que tu connais This Is Us ? Il me dit, mais j'adore, c'est exactement comme ça que je veux le faire. Donc, on est entre 62 et 2004, et on fait des allers-retours. Et à partir de ce moment-là, on passe, on est au Havre, Le France, Broadway, un appartement dans le 16e, on est un coup au Maroc, et là, on va comprendre les amours des uns, les amitiés des autres, les disputes des autres. Un des personnages qui est extrêmement touchant, qui est porté par Hobbs, c'est le personnage de Mike, qui lui, en 1960, est dans une famille dans laquelle on vivait beaucoup de discrimination, des deux côtés d'ailleurs, en France, aux États-Unis, mais lui, il sait que qui peut et qui va faire carrière à Broadway. C'est son rêve. Et on s'aperçoit que, petit à petit, dans un moment d'ailleurs très, très émouvant du spectacle, quelques années après, on s'aperçoit que son rêve américain n'a pas fonctionné. Alors qu'au début, il a la Java de Broadway, en chantant les chansons les plus joyeuses, il bascule et on comprend que malheureusement, cette vie est plus une vie de junkie. Et ça se termine par... Je vole avec et là je retiens mes larmes parce que moi j'ai un avantage sur vous, c'est que j'ai vu le livret et quelques petites répétitions où son interprétation de Je vole avant de dire adieu à tout le monde fait qu'à la fin les gens vont être en pleurs. Il y a le clin d'œil sur une autre chanson qui est à l'origine très joyeuse et qu'il va entonner de manière pas désespérée puisqu'il a une décision. Voilà, et ça parce qu'en fait, ce qui est important dans ce spectacle, c'est que on dit, vous savez déjà, vous allez chanter, c'est vrai. Mais quand on écoute les chansons de Michel Sardou, ben les chansons très joyeuses, il y en a peu.
C'est vrai.
Et donc, il a, au début, je disais à mon metteur en scène, je lui dis, mais oulala, mais c'est une histoire d'amour aussi dure que ça, mais il y a une histoire. Il me dit, mais tu n'as pas réécouté les titres. Écoute les titres de Michel Sardou. Et même dans les chansons joyeuses, il y a souvent une double lecture. Et donc, ça fait un spectacle où les personnages vont être très attachants. Et on est tous, quelque part, l'un des personnages. On a tous vécu une des vies de ces personnages-là.
C'est beau, du coup, on va pouvoir se retrouver. Et alors, moi, ma question, c'était plus, vous avez parlé d'un appartement dans le 16e, vous avez parlé du Maroc, vous avez parlé du France. Comment ça va se passer au niveau scénographie ? Vous êtes très, très bien entouré, oui. Pardon, avec des gens qui ont fait le Cirque du Soleil. Donc, je pense à Stéphane Roy. Oui. Vous avez aussi une chorégraphe. D'ailleurs, vous êtes très entouré de Canadiens, si j'ai bien compris.
Non, sur mes spectacles, je viens bosser avec les Québécois, parce que c'est l'école... Nord-américaine, donc c'est vraiment extrêmement sérieux, cadré, le sens du planning, des budgets. Et le Québec, il y a une couche supplémentaire, c'est que ils sont très respectueux de la langue française et de ce patrimoine-là. Il y a tout qu'on a. Alors je vais faire un peu Michel Sardou. Il y a des trucs qu'on a perdus ici, qui sont très présents là-bas. Et donc c'est 6 millions de francophones qui résistent à quasiment 400 millions. D'anglophones, et ça passe par la culture. La culture, c'est ce qui est le plus important dans leur vie. Et donc, c'est pour ça que je bosse avec eux, et notamment Stéphane Roy.
Non, mais très, très bon choix, je trouve. Mais du coup, ma question, c'était plus sur la scénographie. Non, mais c'est très bien, sur la scénographie. Comment ça va se passer? Parce que du coup, quand il y a autant de lieux, c'est toujours, ça peut être un peu difficile, j'imagine, sur la scénographie. À quoi on peut s'attendre de ce niveau-là?
Alors, je ne veux pas vous dévoiler ma scénographie, mais en fait, on a trouvé une scénographie permettant d'être dans 20 lieux différents. Donc, bien évidemment, elle est à base d'écrans et de projections, entre autres avec des images incroyables. On travaille avec une boîte qui s'appelle Cutback, que vous connaissez peut-être. Cutback fait énormément d'images de gros spectacles, Indochine, vraiment, quand il y a de gros Barnum sur scène où on a besoin d'images... assez spectaculaire ou d'images intimistes, puisque c'est pas le fait qu'il y ait des images qui bougent que généralement, s'il n'y a que ça, bon, on passe à côté du spectacle. J'ai fait un spectacle à Lourdes qui s'appelle Bernard de Lourdes, où les gens sortent du spectacle, le cœur vraiment renversé. Alors qu'il y a très peu de choses sur scène, mais les lumières, des images faites intelligemment font que bah, ça accompagne le spectacle. Donc, c'est un gros set, en façon Broadway, vraiment, avec plusieurs découpages d'écran qui permettent, et notamment un grand écran central qui monte et qui descend, et des écrans sur le côté. Ça fait une espèce de petit arrondi et ça permet de passer d'un lieu à un autre comme ça. On est vraiment sur le pont du France et deux secondes après, on se retrouve dans un désert. Donc là, généralement, si je vous donne cet indice, il y a des chansons qui doivent suivre. Et ça marche, ça marche à merveille. Et puis, dans ce spectacle-là, on a vraiment, sur une histoire française. En fait, on a 40 ans d'histoire française et donc, on utilise également des archives, des codes. En fait, comme pour permettre de comprendre tout de suite où on en est, le France 62, 68, la mode, les couleurs, les tenues, les costumes, vous allez vous régaler. C'est vraiment des costumes, des tenues de chacune des époques. Ça, c'est fascinant de voir à quel point ça marche. On n'est pas dans le cliché. Puis surtout, on s'aperçoit que aujourd'hui, vous allez chez H&M ou Zara, vous avez plein de vêtements qui sortent directement des années 70, par exemple, au début 80. Et donc Nicolas, le costumier, commence à travailler sur des costumes. J'ai vu les esquisses qui sont époustouflants. C'est une histoire française.
On a hâte de voir ça, en tout cas.
Et moi donc
Moi, du coup, j'avais une petite question, peut-être un petit peu plus sur votre organisation. On sait tous comme les choses sont compliquées en ce moment. Et de tout ce que vous nous décrivez, ça a l'air de monopoliser un certain nombre de personnes, de moyens, etc. Donc, comment vous vous en sortez dans le contexte actuel? Est-ce que vous arrivez à avancer comme vous voulez? En gros, vous en êtes où? Est-ce que ça se passe bien?
Alors, on travaille totalement normalement. Ce qui est le plus compliqué, ça a été, et c'est encore le cas, de trouver des prestataires. Beaucoup, malheureusement, ont déposé le bilan. D'autres ont décidé de changer de métier. La période est très dure. Hein, c'est vraiment… Donc, c'était pourtant pour ça qu'il était important pour nous, alors qu'il y a encore des risques sanitaires à la rentrée. On démarre le 21 octobre, mais on est dans l'inconnu plus total. Nous, on voulait coûte que coûte démarrer. Donc, on est devenu les spécialistes des tests. On voit beaucoup de… On s'isole souvent. Quand on fait les ateliers où là on a enregistré déjà tous les instrus du spectacle et de l'album à Béziers dans un studio fantastique qui s'appelle Ma Ferme, mais pendant 15 jours les musiciens, les chanteurs et nous-mêmes, on était vraiment en huis clos. Donc avec un âne qui s'appelle Bébert, qui est devenu jamais vu un âne aussi affectueux, qui est un peu notre mascotte. Et en fait on a pris les choses très sérieusement. C'est vraiment on teste tout le temps, on voit personne d'autre quand on travaille, on demande vraiment. On a fait une première télé, pour tout vous dire, on a enregistré une première télé avec la troupe, qui est une télé sur un medley que vous allez découvrir dans quelques semaines, que vous allez adorer, réalisé par Pierre Billon et ses musiciens. On a un medley extraordinaire de 4 minutes 30 qui va porter les gens, qu'on va clipper, qui va sortir. Et donc pour faire cette télé, bah là pareil, on a failli avoir un cluster parce que quelqu'un avait été avec un cas contact, donc prise de sang, test, on connaît tout sur tout. Mais il faut avancer et travailler, donc
ça nous donne une perspective, et nous aussi ça nous donne une perspective de se dire qu'il y a un spectacle qui arrive au mois d'octobre.
C'est tellement important,
ça fait du bien à tout le monde.
Dernière question, puisqu'on arrive au bout de cette interview. On a parlé, vous venez de nous parler d'un prochain extrait qui sera un medley, on a parlé de l'album, de la musique. À quoi ça va ressembler en termes de couleurs musicales? Est-ce que justement l'équipe créative qui travaille avec Sardou habituellement travaille aussi sur l'album? Qu'est-ce que ça va donner? Non,
ce que je voulais dire très fortement, c'est que notre parti pris, nous, c'était de retrouver les chansons telles qu'on les connaît, avec sont que de vrais instruments, il y a que de vrais musiciens, et parmi les plus hauts, il y a des musiciens justement qui ont travaillé avec Calo, avec Michel Sardou lui-même, tout ça, enfin bref. Et donc, on va retrouver les chansons telles qu'on les aime. On va enregistrer toute la partie cordes. Il y a beaucoup de cordes dans les titres de Michel Sardou, là, dans les 15 jours qui arrivent. Donc, il n'y aura pas de pseudo-remix. On a fait un petit travail sur les rythmiques et sur les mix pour qu'on ait dans l'oreille quand même des mix pour la salle qui puissent vraiment emmener les gens. Mais il n'y aura pas de mauvaises surprises en ayant une pauvre version. Sur La Rivière Notre Enfance, ce qui était pas mal, c'est que autant il est très compliqué de déformer ou transformer les œuvres des années 70, 80 et même un peu 90, parce qu'en fin de compte, elles ont très bien vieilli. Il y a même une tendance aujourd'hui chez les jeunes à reproduire et à reprendre ces sons-là. En ce moment, on a beaucoup de sons des années, femmes des années 80. Ça pourrait sortir aujourd'hui.
Avec, 2010.
Voilà, avec. Ah non, mais la version originale, elle est plus proche de Giorgio Moroder, tout ça. Et c'est un son qui est recherché aujourd'hui que de. Je pense que ça va être une vraie belle surprise. Moi, j'ai vu quelques titres, quelques spectacles comme ça, notamment sur Broadway, tout ça, où d'un seul coup, ça avait été le cas quand j'ai produit Saturday Night Fever. J'aimais pas du tout ce que j'avais entendu en Angleterre, où d'un seul coup, une musique qui était une musique dansante devenait une musique d'orchestre, alors que Saturday Night Fever. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait les titres avec Kylie Minogue et ses producteurs et Jess Glynn. Et on avait vraiment des titres très, très dansants. Donc, moi, je crois que les œuvres, ça doit se respecter et que déjà qu'on change beaucoup de choses, puisqu'on n'a pas Michel Sardou, donc on change un élément essentiel des chansons, ça sert à rien d'en rajouter. Donc, et puis, moi, je vois pas, très sincèrement, je cherche. Je ne sais pas vous dire que parmi les tubes, hein, quel titre a mal vieilli, je n'en trouve pas. Parce qu'en fait, on les connaît tellement qu'on ne peut pas les entendre ailleurs, différemment.
Ouais. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour nous avoir levé un petit peu le voile sur ce que sera ce spectacle. Le rendez-vous est pris pour la sortie de l'album et puis pour la première du spectacle dans quelques mois.
Merci infiniment.
Oui, on a vraiment hâte. Ce n'est pas du sang dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un phare.
La rivière de notre enfance, donc interprétée non pas par Michel Sardou et Garou, mais par Tony Bredelet, Boris Barbet et Jacob Gazabian, qui sont les trois premiers artistes du casting de Je vais t'aimer. Le titre est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes et le clip est également dispo depuis ce matin, depuis ce vendredi matin. Donc nous, on a découvert, ça y est, ce titre, on va pouvoir vous dire ce qu'on en a pensé. Tiens, Amélie, pour commencer, quel est ton ressenti sur ce titre ?
Eh bien moi, Julien, en quelques mots, j'ai dû l'écouter plusieurs fois. La première fois, c'est vrai que j'ai pas été très séduite par le petit beat au début, que je trouvais certes très moderne, mais que je trouvais qu'il collait pas forcément à l'empreinte de Sardou. En revanche, je trouve que la chanson dans le global est assez fidèle à ce à quoi ressemble une chanson de Sardou. J'ai trouvé qu'en fait l'identité restait présente et que l'interprétation des trois garçons était vraiment intéressante. Pour le coup, on a pu en discuter un petit peu avec Roberto Surléo et c'est assez touchant. Enfin, on sent l'émotion qu'il y a derrière. Je trouve que ça donne un nouveau ton à la chanson, une nouvelle couleur. Et finalement, je pense qu'avec plusieurs écoutes, c'est plutôt intéressant comme reprise. C'est pas un remix horrible avec des beats ou de l'électro un peu horrible. Donc non, vraiment, je suis pas pleinement satisfaite, mais je trouve qu'après quelques écoutes, eh ben ça passe plutôt bien.
Je suis assez d'accord avec Amélie sur l'interprétation qui est assez que je trouve assez touchante, en fait. C'est une chanson qui, quand elle est sortie, m'avait fait un peu ni chaud ni froid.
Alors si, j'avais trouvé le clip marrant parce que c'était Garou et Sardou en vieux briscard qui sont en train de se mettre bien au rouge en disant que c'est pas du sang qui coule dans leurs veines. Donc j'avais trouvé ça assez drôle. Et en fait, il y avait un côté vraiment second degré. On le voit à la fin du clip, hein, d'ailleurs, parce qu'ils se font arrêter par les flics pour tapage diurne, d'ailleurs, je crois. Et il y a Sardou qui fait une remarque un peu sarcastique à Garou. Bon, il y a un côté un peu humoristique de... voilà, de vieux briscards qui ont un retour un peu amusé sur eux-mêmes. Et là, c'est un peu un contre-pied par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est effectivement des très jeunes chanteurs. Ça se voit dans le clip quand même, qui sont jeunes. Et il y a une émotion très différente. Comment ?
Je dis le plus jeune, il a 17 ans, il me semble.
C'est ça. Ouais. Et donc, il y a une émotion assez différente qui ressort. Et ça, enfin, quand on a un vieux de 50 balais qui dit « mon père me manque », c'est pas la même chose que quand on a un jeune de 17 ans qui dit « j'ai pas connu mon père, il me manque ». Et donc, ça crée une émotion qui est quand même, je trouve, assez intéressante. Et alors, on pourra discuter de la place de la chanson dans le répertoire de Sardou et est-ce que c'est la plus intéressante ou pas. Mais par contre, en tout cas, je pense qu'au niveau narratif, ça crée un truc assez intéressant. Ça me donne envie d'en savoir plus sur l'histoire qui va nous être racontée.
Martin, tiens, en tant qu'expert de Michel Sardou et garant du temple Sardou.
C'est vrai que maintenant, je suis un expert d'ailleurs. Je suis passé sur Europe 1, donc
c'est vrai.
Je suis un expert, je peux dire que je suis un expert.
Mais oui. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé à la première écoute ou à la 2, 3, 4e écoute de cette chanson-là?
Alors, je suis pas. En vrai, je suis pas un expert de Sardou. Je suis juste une des nombreuses personnes à avoir un rapport spécifique à la musique de Michel Sardou. Et je pense que tout le monde a un peu son Sardou. Tout le monde a son Sardou, quoi. Tout le monde a sa vision de Sardou, de sa musique, de ce qu'il nous procure comme émotion négative ou positive d'ailleurs. Hein. Pour certains, c'est un rejet catégorique. Et moi, si tu veux, le Sardou de la rivière de mon enfance, c'est pas mon Sardou, quoi. C'est pas le Sardou qui m'intéresse. Not my Sardou. C'est une chanson qui m'a jamais vraiment intéressé. L'original, je la trouve déjà très plate et très très lambda. Enfin, elle m'évoque rien. Bon, voilà. Donc, si tu veux, Et je pense que c'est pas une chanson qui est très importante dans le cœur des fans de Sardou. Donc c'est très étonnant de voir cette chanson-là sortir en premier. Après, la version en tant que telle, je la trouve très... Je souscris à ce que vous avez dit. Moi, je trouve qu'elle fait bien le job. Elle est bien fichue. J'aime bien ses petits violons. Si tu veux, moi, je rêve d'un truc. Et je savais que ça serait pas l'objet de cette comédie musicale. Et je le comprends parce que... voilà. Mais ça serait de voir une œuvre qui va vraiment un peu travailler, mettre de la distance dans le rapport à Sardou. Et mettre de la distance en s'en manquant peut-être un peu gentiment parfois ou en le prenant à contre-pied. Peut-être qu'il y aura des chansons dans le spectacle où ça sera le cas, on verra.
Mais c'est peut-être pas tant qu'il est vivant. Hein. Peut-être que lui, il laisse pas faire ça.
Je sais pas. Il a l'air de s'en foutre un peu, mais c'est un peu ce que je reprochais à la famille Bélier, c'est que ça nous vendait un peu des choses rigolotes sur Sardou, puis finalement, on s'est retrouvé sur un truc très...
Ouais,
très premier degré, très révérencieux, et ça m'avait un peu déçu. Alors, donc voilà, donc je pense que ce projet dans son ensemble ne m'est pas destiné, mais il a l'air néanmoins très bien fait.
Il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse, et peut-être qu'on aurait dû la poser à Roberto Cirlio. Donc, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, l'interview a été enregistrée la veille du moment où on enregistre cette émission. On l'a enregistrée en deux parties. Mais c'est si dans la dimension du spectacle, dans l'univers où se passe le spectacle, Michel Sardou existe ou pas. Parce qu'il y a des spectacles...
Le Sardouverse, en fait.
Exactement. Il y a des spectacles qui tiennent complètement compte de l'existence des artistes auxquels ils sont consacrés, que ce soit Belle Belle Belle, que ce soit même dans une certaine dimension We Will Rock You sur les chansons de Queen. Et il y en a qui en font abstraction. Dans Résiste, c'est comme si Michel Berger et France Gall n'avaient pas existé. Et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment existé puisqu'elle a un autre personnage dans le spectacle.
Alors moi, à choisir, je préférerais ça, hein, parce que dans Belle Belle, c'était un peu lourdingue quand même, hein, les références à Claude.
Ah ouais. Et puis dans Mamma Mia aussi, c'est le même parti pris. Moi, je trouve que ça marche mieux, en fait. C'est une façon de dire, on peut raconter une histoire avec...
Moi, juste sur la chanson, je voulais dire que j'aimais bien quand même le trio de voix masculines. C'est un peu un classique de la comédie musicale. C'est un peu le bel et tous ces trucs-là. J'aime bien, ça fonctionne toujours bien. Ils sont assez choux, là, les trois, quand même.
Ouais.
Ils ont l'air assez talentueux. Ça chante quand même bien. Ça fait du violon et tout. J'adore. donc voilà, juste j'en place une pour ça parce que c'est joli. Ça, c'est efficace, voilà. C'est ça, c'est efficace.
Alors moi sur la chanson, je vais je souscris à ce que vous dites globalement. Ce qui m'intéressait, c'était vous savez, c'est pour les personnes qui écoutent soit les Rois du Monde et Stone, soit Stockholm Sardou, soit peut-être les deux. Je prête quand même beaucoup d'attention aux arrangements musicaux et c'était ça qui me faisait le plus peur. Et en même temps, j'avais un peu confiance parce que un des deux co-réalisateurs de l'album, c'est un musicien qui s'appelle Philippe Huminski. Donc ils sont deux, il y a lui et Quentin Bachelet. Philippe Huminski est l'interprète d'une des chansons des années 2010 que j'écoute le plus, qui s'appelle « Mon premier amour », qui est une chanson que je trouve absolument géniale. Et en fait, l'album a été enregistré dans les conditions du direct avec un orchestre complet. Et je me disais que quelqu'un qui avait fait ça d'un côté pouvait pas faire un truc extrêmement synthétique et cheap sur les chansons de Sardou. Ça nous a été un peu confirmé par Roberto Surleo, puisque l'ensemble de la couleur musicale sera amené par des vrais musiciens en studio. Et donc voilà, j'avais quand même un peu cette confiance. J'ai eu très très peur en entendant le beat, exactement comme Amélie. J'ai eu très peur avec le rythme du début. Je me suis un peu décoincé avec la caisse claire un peu roulée, un peu militaire qui arrive ensuite. Et puis au fil de la chanson, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées. L'harmonica un peu vieillot qui est dans la chanson d'origine, mais qui marche bien dans la chanson d'origine, là est remplacé par un solo de violon. Il n'y a pas vraiment un solo, je pense qu'il y a plusieurs violons qui marchent.
Oui, en vrai, oui.
Ouais. Qui marchent très très bien. Il y a même des petites clochettes en fond du refrain. Vous tendrez l'oreille si vous allez écouter la chanson. Il y a des petites clochettes mignonnes. Il y a de jolies choses qui s'entendent quand on tend l'oreille. Et je trouve que vraiment l'arrangement marche bien, tout en étant très fidèle. Et pareil sur les voix. Au début, je me disais, bon, bah, c'est trois voix. On en entend un, puis l'autre, puis ils chantent ensemble, mais ils chantent la même voix.
Non, et sur il y a des harmonies.
Voilà. Et en fait, sur la fin, ils partent sur des harmonies et ça marche vraiment bien. Donc j'ai eu très peur sur les premières secondes du titre. En plus, il y a un teaser qui avait circulé en début de semaine sur les réseaux sociaux où on n'avait que l'intro. Je me disais aïe 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 aïe. Et quand on a découvert le titre, bah j'ai soufflé un grand coup en me disant bon bah ça va, c'est bien. Et même ça donne envie de découvrir ce qu'ils vont faire avec les vieilles chansons.
Ouais, c'est vraiment le gros point d'interrogation que j'ai moi sur le spectacle, c'est comment ils vont arranger tout ça pour déjà qu'il y ait une cohérence de l'ensemble, parce que musicalement c'est quand même très éclectique, hein, les orchestrations, hein. Comment donner une unité à tout ça, et quelle histoire ils vont nous sortir avec toutes ces chansons, et comment mettre un fil rouge entre tout ça qui tienne la route. J'ai vraiment hâte de voir parce que ça m'interpelle quand même beaucoup.
Ouais. Ça risque de faire un peu cadavre risqué avec des chansons de Sardou, voilà. En fait.
Ouais, c'est ça. C'est le risque.
Ce qui peut être marrant, mais du coup, si tu t'insères pas un lien un peu référentiel à Sardou là-dedans, je sais pas. Ça m'inquiète un peu, mais bon, fois de plus, je pense que c'est pas. Je suis pas dans la suite.
Virginie.
Après, lui, il a quand même, enfin Roberto Surleo a quand même vraiment insisté sur le fait que l'enjeu pour eux c'était de rester très fidèle à Sardou. Donc effectivement, c'est pas de déconstruire Sardou. Donc c'est pas trop ce que t'aurais préféré, Martin, je suppose, mais on n'est pas dans la déconstruction de Sardou. J'ai beaucoup aimé ton c'est pas mon Sardou, ça m'a rappelé la fois où j'avais été à la signature d'un bouquin de Rob Sheffield sur David Bowie. Il m'avait dit qui est ton Bowie, et je me dis qui est ton Bowie et qui est ton Sardou, je trouve ça beau. mais donc voilà, il y a un projet de rester quand même vraiment très fidèle quand même à aux chansons originales de Sardou. Donc c'est vrai que c'est là qu'est vraiment la question. Après, il y aura forcément des choix éditoriaux qui auront été faits. Je suppose que les chansons les plus controversées vont peut-être pas faire le cut.
Il y a J'accuse, non, il nous a parlé de J'accuse.
Il y a J'accuse.
Ouais. Il y a J'accuse, ouais. Il y a J'accuse et il y a Le Privilège, ça c'est cool.
Le Privilège. Mais
non, pas de Ville de Solitude, malheureusement.
Pour pour l'instant, on ne sait pas. On a les chansons dont on a parlé sont celles qui sont affichées sur le site, mais c'est pas toutes les chansons. Donc on aura peut-être des surprises. Et moi, je rêve d'un truc. C'est que ça, pareil, on ne le sait pas. Je me souviens de Résiste, où il y avait une variété des formats, c'est-à-dire qu'il y avait des chansons qui étaient chantées en entier, mais il y avait des bouts de petites chansons. Et ça c'était très très chouette. J'ai l'impression aussi. Oui, pardon.
Non, j'y pensais par rapport à Résiste, et puis il y avait aussi le côté, il y a des histoires dans l'histoire. Je veux dire, je pense notamment au rôle d'Angelina, en fait, où il avait remis l'histoire d'Angelina Dumas. En faisant une sub-story, en fait. Et donc, peut-être, ça peut être un parti pris aussi de, comme c'est un spectacle choral, il y aura plein de personnages, peut-être qu'il y a moyen aussi de restaurer un peu de cette narration éclatée de cette façon-là.
Je pense qu'il y aura de ça, même si le problème des personnages de Sardou, c'est que c'est souvent des jeux. Et qu'il ils ont rarement des prénoms, ils sont rarement identifiés parce qu'ils chantent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la première personne.
Oui, du coup, le risque, c'est d'avoir plein de personnages différents qui racontent chacun leur petite histoire et que ça fasse un peu galerie de portraits, mais que c'est difficile de lier l'ensemble.
Mais moi, je suis assez hypé. Ouais, Martin ?
Non, j'essayais de me projeter, genre, la discussion qui peut amener les ricains, par exemple. Tu sais, genre, ouais, mais non, mais regarde, là, ce qui se passe en Vietnam, c'est pas normal. Ah, si les ricains n'étaient pas là !
Et comment t'enchaînes sur Musulmane après ?
Mais l'histoire commençant en 1962, il peut très bien se passer quelque chose autour de 67, puisqu'on va être sur une fresque. Ouais.
En plus, il y a une artiste d'origine, je ne sais plus d'où elle vient, c'est du Maroc, je crois que c'est du Maroc, et une interprète, je veux dire, mais du coup, son personnage a un prénom français, du coup, je ne sais pas comment ça va s'articuler.
En termes de comédie musicale, moi je suis assez hypé par ce qui nous a été dévoilé, parce que vous venez d'entendre donc dans l'interview de Roberto sur Léo, sur l'envie de faire vraiment une comédie musicale, c'est-à-dire avec beaucoup de textes. Il y a quand même un quart de texte dans le spectacle, j'ai l'impression que de la même manière que s'est créé un Dove Atiaverse avec plusieurs spectacles, ben on est en train d'assister à la création, qui prend un peu le relais de ça, parce que finalement, Dove Atia, ça fait un moment qu'il n'a plus fait grand-chose, d'un sur Léoverse, désolé pour le néologisme, mais avec des spectacles qui sont de plus en plus fins, de plus en plus matures. Et en fait, on est parti sur un Robin des Bois qui nous avait pas tellement emballé que ça. Arrive derrière les Trois Mousquetaires, dont on a parlé il y a pas si longtemps, et qu'on a finalement bien aimé, alors qu'on partait pas tous convaincus. Bernadette de Lourdes, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y a pas de captation, mais vous m'arrêtez si je me trompe, on ne nous en a dit que du bien.
Ouais, on a eu des retours super positifs sur Bernadette de Lourdes.
Et les critiques, y compris dans Le Monde, y compris dans la presse, qui normalement n'a pas un très bon œil sur les comédies musicales, les critiques sont bonnes. Et là, si on arrive sur l'aboutissement de encore quelque chose de plus mature, je pense qu'on peut vraiment avoir un truc hyper, hyper intéressant.
Et c'est vrai que moi, ce que j'avais bien aimé, notamment dans Les Trois Mousquetaires, c'était le côté un peu méta du spectacle.
Ouais.
Donc, ça peut aussi être quelque chose qui peut être questionné avec le répertoire de Sardou, quoi.
Du coup, maintenant qu'on a découvert ce premier extrait, on attend l'album, mais je pense que le rendez-vous est pris. Martin, tu seras des nôtres ?
Si vous voulez bien de moi, oui, avec plaisir.
Mais déjà, on va t'emmener voir le spectacle avec nous.
Déjà. Ah oui.
Et après, on fera l'émission ensemble.
Avec plaisir.
Et on se retrouvera effectivement pour parler cette fois-ci du spectacle dans son intégralité, une fois qu'on l'aura vu, puisque ça fait partie des spectacles de cette saison qui, mine de rien, s'annonce riche. Donc peut-être qu'on va effectivement vous parler de nouveaux spectacles tout au long de la saison qui arrive. Merci à tous autour de cette table virtuelle. Merci à Amélie qui était avec nous par intermittence. Merci à Mélanie.
Merci Julien.
Merci Virginie.
Merci.
Merci Martin.
Mais avec plaisir. Merci à vous.
Et puis on remercie encore une fois Roberto Surléo qui nous a accordé cette grande demi-heure d'interview un petit peu à la dernière minute. Ça s'est fait de manière très rapide et ça a été très très chouette.
J'espère que vous aurez apprécié la passion avec laquelle il parle du spectacle et les détails qu'il donne et les coulisses qu'il nous livre en fait d'une certaine manière, parce que c'est quand même vraiment très précieux, je trouve.
Et puis nous, on se retrouve très vite dans Stockholm Sardou pour parler de Michel Sardou. Ça y est, on se resépare. Et dans Les Rois du Monde et Stone pour vous parler de comédies musicales diverses et variées. Salut!
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 Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.